Bonjour. Alors, pour préparer notre discussion d'aujourd'hui, on a reçu une sélection éditoriale assez fascinante.
Oui, vraiment.
C'est une sorte d'aperçu de la littérature africaine et de sa diaspora pour 2026. Et il y a de tout, des romans, des essais.
Même des livres pour enfants, j'ai vu.
Oui. Exactement. Mais ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que la source insiste sur un point. Ce n'est pas juste, bon, une liste de courses littéraires, quoi.
Non, l'enjeu est ailleurs.
L'idée, c'est de comprendre pourquoi ces voix sont décrites comme parmi les plus créatives et les plus lucides de la scène mondiale. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est d'aller un peu au-delà des simples
De
résumés.
creuser un peu.
Voilà. Qu'est-ce que ces histoires nous disent sur le pouvoir, sur la mémoire, sur l'identité? Tout ça, mais vu depuis des perspectives africaines.
C'est la question centrale, en effet. Et cette notion de perspectives africaines est cruciale. La source met bien en garde contre le cliché de la littérature africaine, comme si c'était un bloc.
Un bloc monolithique, oui.
Exactement. On parle ici de voix qui viennent d'Abuja, de Nairobi, de Lagos, mais aussi de Brighton, des États-Unis. C'est une vraie polyphonie. Et le concept fort, je trouve, c'est que ces auteurs racontent le monde depuis l'Afrique et sa diaspora.
Avec des visions que la source qualifie de souveraines.
Souveraines et non alignées, c'est très important. Alors, pour y voir plus clair, je propose qu'on suive la piste géographique de la sélection. On pourrait commencer par l'Afrique de l'Ouest, ensuite on traverse l'Atlantique pour la diaspora, et on finit en Afrique de l'Est.
Parfait, ça me semble une excellente feuille de route. Alors, allons-y pour l'Afrique de l'Ouest. Et ce qui me frappe d'emblée, c'est que la vision est déjà très large. On ne reste pas que sur le continent.
Non, pas du tout.
Le tout premier titre, My Own Dear People, de Dwight Thompson, nous emmène.
En Jamaïque.
Voilà, on est en plein dans la Caraïbe. Le décor est posé, la masculinité, la violence sociale, l'héritage colonial. La description parle d'une société marquée par l'injustice et surtout par le silence. Ça donne le ton.
Oui, ce mot silence, on va le retrouver. C'est souvent ce que la littérature vient briser.
Et juste après, changement de décor total avec pillage des morts de Degol Aylou. Là, on est en Éthiopie.
Un premier roman en plus, qualifié d'incisif.
Oui, et le sujet est frontalement politique. C'est l'éveil d'étudiants face à un régime autoritaire. On passe d'une violence, disons, sociale et intériorisée en Jamaïque à une confrontation directe avec le pouvoir en Éthiopie.
Deux contextes très différents en apparence, hein?
Très différent. Mais j'ai l'impression qu'un fil rouge se dessine, non? Cette question de la violence et de la manière de la nommer.
Ou de ne pas la nommer, justement.
C'est exactement ça. Vous mettez le doigt sur le lien fondamental entre ces deux œuvres. D'un côté, une violence héritée de l'histoire, de l'autre, une violence politique contemporaine. Mais dans les deux cas, le sujet, c'est l'interrogation du pouvoir. Ce que la source disait, une littérature qui interroge le pouvoir.
Précisément, et ça va plus loin, la source mentionne deux autres fictions qui s'inscrivent dans cette même veine.
Ah oui, lequel?
Alors, il y a The Aquatics d'Oswald Lewatt. C'est une satire politique qui se passe dans un État africain fictif, donc avec une portée universelle. Et ça aborde à la fois la répression et la condition féminine.
D'accord.
Et puis, The Chipikisha Club de Mubanga Kalimumakwento. Là, c'est un drame judiciaire centré sur des femmes qui luttent contre le patriarcat.
Donc le fil conducteur qui relie tout ça, de la Jamaïque à l'Éthiopie.
C'est cette lutte acharnée contre le silence. Un silence imposé par l'État, par les traditions ou par le poids de l'histoire.
C'est un portrait très engagé, très politique, et là, la sélection prend un virage que, franchement, je n'attendais pas.
Lequel?
La littérature jeunesse. On se dit, bon, ça vient faire quoi à côté de thrillers politiques? On trouve un Banshee 203 de Saad Fadifé, un album joyeux au Nigeria, et Asana Share Everything d'Elnathan John, un conte sur l'égalité de genre. Pourquoi c'est là?
C'est une question essentielle. Et je pense que c'est un des points les plus forts de la sélection. Inclure la jeunesse, ce n'est pas anecdotique.
C'est un geste politique.
C'est une affirmation politique, oui. Ça veut dire que cette volonté de changer les récits, elle s'adresse à toutes les générations. On ne fait pas que déconstruire pour les adultes, on construit du neuf dès l'enfance.
Ah bon, je vois.
Ces livres ancrent dans l'imaginaire des enfants et dans un contexte local, nigérien, des valeurs d'égalité, de partage. C'est une façon incroyablement puissante de préparer l'avenir, de donner de nouveaux outils pour penser le monde.
Vu comme ça, c'est non seulement logique, mais c'est stratégique. On ne fait pas que dénoncer un monde, on en construit un nouveau dès le départ. C'est très fort. Alors, ce combat contre le silence, comment il se transforme chez les auteurs de la diaspora?
Excellente transition. La perspective change, forcément. La mémoire et l'identité restent au centre, mais elles sont, disons, filtrées par l'expérience de la minorité.
Et la première chose qui saute aux yeux, c'est l'éclatement total des genres. On commence avec L'Arenas de Tiffany Jaday Jackson. C'est un thriller young adult haletant, un succès international.
Oui, on est loin de l'essai politique, là.
Et juste après, on bascule sur Firstborn Girls de Bernice L. McFadden, des mémoires puissantes sur les lignées féminines noires. On passe du pur divertissement au récit intime.
C'est précisément cette diversité qui est intéressante. L'exploration de l'héritage, comme chez McFadden, elle fait écho à un autre texte, l'essai « Nous étions là » de Landré Baccara.
Qu'est-ce qu'il raconte, cet essai?
Il est fascinant. Il documente la culture noire britannique, mais en dehors de Londres. Dans les deux cas, que ce soit par l'histoire familiale ou l'histoire d'une communauté, il y a cette volonté de remplir les blancs.
De raconter des histoires qui ont été invisibilisées?
Exactement.
Mais ce qui me surprend encore plus, c'est de voir cette vitalité s'emparer de genres très populaires. La source parle de « A Song of Legends Lost » de M.H. Ayinde, le premier tome d'une trilogie de fantasy africaine très attendue.
Une trilogie de fantasy africaine, oui?
C'est passionnant. On a l'impression que des auteurs s'emparent de genres qui ont longtemps été dominés par des imaginaires occidentaux pour les réinventer.
Absolument. Et on voit la même chose avec le polar. La sélection met en avant « Jusqu'à la mort » de Busayo Matuluko. C'est un roman policier, oui, mais c'est aussi un drame familial et, chose géniale, une plongée dans les coulisses de Nollywood.
L'industrie du cinéma nigérien.
Voilà. Le détail en dit long. On n'applique pas juste les codes du polar, on les nourrit de références culturelles propres.
Donc si je comprends bien, on n'est plus seulement dans une littérature de témoignage, une façon de dire « Nous existons, voici notre histoire ».
C'est exactement ça. Le tournant. Cette appropriation de tous les genres, ça nous montre une diaspora qui est entrée dans une phase de grande confiance créative. Il ne s'agit plus seulement de raconter son histoire, mais de revendiquer le droit de raconter toutes les histoires.
Des enquêtes, des épopées de fantasy?
Oui, depuis sa propre perspective, avec ses propres codes. C'est une affirmation de puissance narrative qui est immense. C'est une perspective vraiment éclairante. Alors, après cette explosion de genre, on revient sur le continent. Dernière partie, l'Afrique de l'Est. Ça semble plus introspectif. La sélection parle du Kenya, de l'Ouganda, avec beaucoup d'essais et de nouvelles.
Oui, le ton change. On passe à une approche qui est soit très analytique, soit très intime.
D'un côté, on a quoi?
On a la pensée critique pure et dure. L'exemple parfait, c'est l'essai « Poison lent » de Mahmoud Mamdani. C'est un penseur ougandais majeur et ce texte est décrit comme fondamental pour comprendre la construction de l'État postcolonial.
On est dans la réflexion politique de fond.
Très structurée.
Et à l'opposé de cette analyse macro, on a ce que la source appelle l'événement éditorial majeur.
Le retour de Chimamanda Ngozi Adichie, avec un recueil de nouvelles « Dream Counts ». Le pitch est très simple. Quatre femmes entre le Nigeria et les États-Unis. On quitte la grande histoire pour entrer dans la complexité des vies individuelles. C'est donc le double mouvement de cette section. La pensée politique d'un côté et l'exploration de l'intime de l'autre.
C'est ça. Et Adichie n'est pas seule. Il y a aussi « Pour que sont les papillons sans ailes » du Kenyan Troy Onyango sur des thèmes comme l'amour, le deuil. Et « Let's Conspire and Other Stories » de Billy Kaora qui est présenté comme un panorama de la création kenyane.
C'est intéressant, cette prédominance de la nouvelle. C'est un format qui permet peut-être de mieux saisir des instantanés de la vie moderne.
C'est une excellente remarque. La nouvelle, c'est parfait pour capter la fragmentation, la complexité des vies urbaines contemporaines. À Nairobi ou ailleurs, ça offre une mosaïque de points de vue. C'est un format très agile. Et pour boucler la boucle, la sélection termine sur une note très différente, qui nous ramène au Nigeria d'ailleurs. Un livre au titre génial. « Presque tous les hommes à Lagos sont fous » de Damila Rekuku.
Oui, la source souligne son ton drôle et percutant et son succès. On est dans la satire sociale, les relations hommes-femmes à Lagos. On quitte la gravité pour l'humour.
C'est une conclusion parfaite. Ça nous rappelle l'incroyable étendue du spectre. On a parlé politique, mémoire, fantaisie, essai, et on termine avec la comédie de mœurs. Ça montre la vitalité extraordinaire de la scène littéraire, et surtout de Lagos.
C'est vrai. Lagos est partout dans cette sélection. C'est un épicentre créatif.
Absolument bouillonnant. Quand on reprend maintenant les quatre raisons de lire cette littérature, que la source donnait au début, tout s'éclaire. La première, pour comprendre les mutations politiques et sociales. On l'a vu de manière éclatante. Oui, ces livres sont des sismographes. La deuxième, pour découvrir des voies souveraines et non alignées, la fantaisie africaine, le polar Nollywood, c'est exactement ça, la définition même de la souveraineté narrative. Troisième point plus concret, pour soutenir un écosystème éditorial indépendant. Et enfin, pour nourrir une lecture panafricaine du monde, je crois qu'on a tout vu. Et si je devais faire une synthèse, je dirais que cette littérature a dépassé le stade du simple miroir du continent. C'est devenu un laboratoire.
Un laboratoire.
Un laboratoire d'idées, de réflexions, mais aussi, et c'est peut-être le plus excitant, un laboratoire de formes narratives. On y réinvente le polar, la satire. Ces œuvres ne parlent pas que de l'Afrique au monde, elles parlent au monde de ses propres fractures. La source conclut avec une phrase très juste. Lire africain, c'est lire le présent et parfois l'avenir.
Lire l'avenir, c'est une formule qui fait réfléchir et ça m'amène à une dernière pensée. Si lire ces œuvres, c'est vraiment lire des fragments de l'avenir, alors parmi tous ces futurs qui s'esquissent ici, que ce soit dans l'éveil politique à Addis Abeba, les sagas familiales de la diaspora ou les comédies de Lagos, quelle est la vision qui nous interpelle le plus ? Celle qui nous force à questionner notre propre présent, où que l'on soit dans le monde.